L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'AJT du local de ce jeudi 11 février 2021. Bonjour Claire et bonjour Emma aujourd'hui.
Bonjour Marie, bonjour Claire et bonjour tout le monde.
Et bonjour tout le monde, toujours en direct à Laval à cause du verglas.
C'est ça, mais en fait, c'est le retard verglas, tu sais, t'avais le petit décalage avec le verglas, évidemment, on en reparle d'ici quelques secondes. On va aussi, évidemment, parler de cette journée internationale des femmes et filles de science aujourd'hui, donc le 11 février. On s'intéresse à cette occasion au parcours inspirant de Mayonnaise et aux clichés qui peuvent encore subsister, que ce soit chez des lycéens ou ailleurs. On va parler aussi de l'entreprise Coucou Lily qui propose en Mayenne des protections hygiéniques bio zéro déchet, un projet entièrement lié à l'histoire de sa créatrice Anaïs Grémond, vous l'entendrez. Et puis on poursuit notre feuilleton au studio vidéo de la ville de Laval. Après les précieuses archives écoutées mardi et hier mercredi, Stéphane Piau revient aujourd'hui sur l'importance de la transmission et du devoir de mémoire autour justement de ces archives.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité. Après la neige, c'est au verglas, donc on l'a compris qu'il faut faire attention.
Exactement, la Mayenne reste en vigilance jaune, grand froid et neige verglas jusqu'à ce soir au moins. Attention sur les routes, le dépassement est toujours interdit pour les camions de plus de 7,5 tonnes. Aujourd'hui encore en Mayenne, pas de transport scolaire ni de ligne de bus régulière sur le réseau Aléop, hormis les 5 navettes express. À Laval, les lignes scolaires d'études ne sont pas assurées, mais le reste du réseau circule quasiment normalement. Les températures restent négatives toute la journée. Le plan grand froid a été activé par la préfecture. 36 places sont disponibles à la halte de nuit. Et si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, n'hésitez pas, prévenez le 115.
30 cas de variants détectés à l'hôpital de Laval.
Depuis le 25 janvier, 170 tests PCR positifs sont passés par l'étape du criblage, qui permet d'identifier les variants du Covid-19. Et sur 170 tests, 30 ont révélé la présence d'un variant, essentiellement un variant britannique. Un chiffre dans la moyenne nationale avec 13 ou 14% de suspicion de présence de variants.
Elle porte plainte contre l'hôpital de Mayenne.
Son père est décédé de la Covid-19 fin janvier et selon sa fille, c'est au centre hospitalier du Nord Mayenne qu'il aurait contracté le virus. Admis début janvier pour une hépatite, il est placé aux urgences avec une femme positive à la Covid par manque de place. À son arrivée à l'hôpital, son papa est donc négatif, mais quelques jours plus tard, son test PCR est positif. Pour sa fille, l'hôpital est donc en faute, mais la direction du centre hospitalier affirme qu'on ne peut pas statuer sur sa responsabilité.
La loi sur le gaspillage alimentaire de Guillaume Garot, adoptée en commission.
Le texte défendu par le député mayennais était présenté hier à la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et les principaux articles de cette loi ont été votés. Faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire une grande cause nationale en 2021, la création d'une police de gaspillage ou encore le travail sur les dates de consommation. Mais la proposition de bons pour bien manger et l'éducation à l'alimentation obligatoires dans les programmes scolaires ont été refusés. Le texte doit désormais passer en séance publique.
Guillaume Chevrollier alerte sur la pénurie des AESH.
Les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Le sénateur mayennais a interrogé Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, sur le sujet. Des élus et des établissements mayennais l'avaient alerté, le sénateur, qui estime que les établissements manquent de moyens alloués par l'État. L'État qui doit agir et ne saurait se résigner à cette situation. Fin de citation.
20 fermetures et 7 ouvertures de classes prévues à la rentrée 2021.
Le projet de carte scolaire pour la prochaine rentrée en Mayenne a été dévoilé hier. La FSU 53 a voté contre, même si le syndicat se réjouit de la création d'un poste d'enseignant en charge du suivi de la scolarité des élèves en situation de handicap et de la création de 3 postes de remplaçants. Il regrette qu'il n'y ait pas d'enseignants supplémentaires dans le département, ce qui permettrait de répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves aggravés par la crise sanitaire. En septembre 2021, 20 classes pourraient fermer contre 7 réouvertures prévues.
3 nouvelles formations à l'URMA.
Le centre de formation de la Chambre des métiers et de l'artisanat en Mayenne organise ses portes ouvertes ce samedi, puis tous les mercredis jusqu'à la fin du mois d'avril. L'occasion de découvrir justement les 3 nouvelles formations proposées par l'URMA. Un brevet professionnel carreleur mosaïste, un BTS maintenance automobile et une mention complémentaire zingri. Pour les portes ouvertes, des visites sur place sont possibles sur inscription au 02 43 64 11 00 ou sur internet, ou bien à distance grâce à des lives via l'application Imagina. Ce sera ce samedi de 9h à midi.
Faites le plein d'activités sportives pendant les vacances.
Avec le service des sports du pays de Château-Gontier, pendant les vacances de février, vous pourrez faire du roller, tester la course d'orientation, l'équitation, le VTT, le chokeball ou encore les arts du cirque. Les animateurs s'adaptent aux conditions sanitaires avec des activités au bois de l'Huisserie, dans la forêt de Bellebranche ou au parc de Loisillères. Programme complet sur loisirs.châteaugontier.fr. Inscription dès aujourd'hui par téléphone au 02 43 09 61 50. Et puis à l'occasion de la Journée internationale des femmes et filles de sciences ce 11 février, Claire, tu étais au lycée Douanier-Rousseau à Laval.
Et oui, en effet, il y avait dans leurs locaux une intervention de l'association Femmes et Sciences 53 avec le Zoom de Laval, avec des quiz, une exposition et aussi des interventions. Flora Diaz, la coordinatrice de l'association, et Marie Targue, ingénieure en électronique à Thalès Laval, nous expliquent la mission de l'association.
Alors, infirmière, pour vous, ça ne demande pas beaucoup de force.
On fait de la sensibilisation auprès des élèves, hein, donc filles et garçons. Le but, c'est d'aller justement vers plus de parité dans ces métiers-là et surtout dans les études, parce que ça va se jouer au niveau justement de la scolarité et des choix d'études. Quand on sait qu'il y a moins de 30% des filles dans les écoles d'ingénieurs, dans le secteur informatique, dans la formation d'informatique, ils sont 15%. Donc on est encore loin d'avoir une parité à ce niveau-là. De ce que j'ai entendu des témoignages, il y a une évolution des mentalités, ça c'est sûr. Et il y a une volonté de ces secteurs-là de recruter aussi plus de jeunes femmes, parce que ce sont les équipes mixtes qui fonctionne le mieux en fait en entreprise.
Du coup, ça fait plusieurs fois déjà que je fais des interventions avec Femmes et Sciences justement au niveau des collèges et au niveau de Laval Virtual pour justement en tant que témoin de mon parcours, de mon métier et voilà, et pouvoir échanger aussi avec les jeunes filles et garçons. Hein. Mais voilà, je partage en fait. Je trouve qu'aujourd'hui dans les entreprises, on fait beaucoup de sensibilisation justement sur cette notion de parité, du sexisme, de la diversité en général. Mais je pense que ça serait bien qu'on n'ait pas à faire ce genre de sensibilisation au niveau d'entreprise et que la sensibilisation soit déjà faite justement au niveau des écoles pour justement voilà, avoir déjà un environnement après de travail et de développement qui soit propice à tous. Il faut encourager les jeunes filles à oser, à se dépasser et les messieurs, il faut aussi leur apprendre aussi la compassion, l'empathie, ce genre de choses qui manquent un peu aujourd'hui mais que ça évolue, hein, je dis pas le contraire, mais bon, c'est vrai que c'est en voie de progression. Plus que... C'est pas acquis encore. Parce que moi, au début, je pensais que mon intervention servait à rien. Je me suis dit, on m'appelle et tout. Je suis bon, ok, je vais parler, mais je pense que j'ai pas de plus-value plus que ça. Et je vois que selon les certains échanges que j'ai, des fois, le regard... quand je dis, par exemple, que le 80%, c'est pas que pour les femmes qui veulent avoir des enfants, j'ai des gros yeux ronds en face de moi, je me dis, ah, en effet, on est encore sur ce sujet-là. Et c'est plein de petites choses comme ça. Et c'est justement... Enfin, moi, j'essaye un peu de planter une petite graine. En gros, c'est un peu ce que je me dis. Je me dis, si un jour il y a un choix qui est fait, je me dis, ah, peut-être, j'ai entendu cette dame qui a dit que je pouvais faire ça ou qu'il y avait possibilité de ça, pourquoi pas. Et voilà.
Pour Nathalie Rode, la professeure de mathématiques de la classe de seconde, c'était évident de recevoir cette intervention pendant son cours. Et pour ses élèves aussi, qui, vous l'entendrez, ont des avis bien tranchés.
C'est très important, ça fait plusieurs années qu'on fait venir cette exposition du Zoom pour Femmes et Sciences 53. Et ça permet de mettre en réalité des choses que les élèves ne connaissent pas très bien, tous ces métiers scientifiques, et d'avoir en face d'eux une femme qui a choisi une carrière scientifique. Ça montre aussi bien aux garçons qu'il y a des métiers intéressants et que ce métier est fait par une femme. Donc ça fait évoluer de toute façon la façon de voir les choses, et des filles et des garçons. Donc voilà, moi j'espère que ça peut participer vraiment à leur réflexion, leur ouvrir des portes qu'elles s'étaient fermées peut-être avant. Et changer l'idée qu'elles peuvent avoir des métiers scientifiques pour se dire qu'après tout, c'est peut-être pour elles aussi. Essayer d'abandonner l'idée que si on ne comprend rien à des maths ou on a du mal en maths, ça veut dire qu'on est nul ou qu'on est stupide, ça n'a rien à voir. Ça se travaille, comme toutes les autres matières. Aujourd'hui, c'est vrai que dès la seconde, ils doivent choisir des spécialités qui vont être importantes pour la suite de leurs études en post-bac. Donc ils sentent bien qu'il y a un enjeu. À chaque moment où il y a des choix que les filles doivent faire, Ben c'est ce moment-là où l'intervention est la plus pertinente et elle peut justement leur permettre de prendre conscience de pourquoi elles se mettent des barrières.
Inès, je suis en seconde. Je trouve ça intéressant de parler de parité, de sexisme et tout. Plus rien ne m'étonne en termes de sexisme, on va dire. Le fait qu'on est 80% dans genre infirmière, paramédicale et tout, bah c'est pas étonnant vu que les femmes sont plus considérées comme douces et peut-être qu'aussi elles le sont un peu par leur éducation. Il y a beaucoup de femmes qui s'en empêchent. Oui, je trouve ça idiot aussi de leur part de s'en empêcher, en fait, même si c'est à cause de leur éducation, bah elles devraient pas. Je préfère me débrouiller toute seule que d'avoir à subir des remarques, d'être dirigée par les hommes et tout.
Moi je m'appelle Jules et je suis en seconde. Les hommes ils donnent pas forcément de la place aux femmes, c'est comme on a vu pour les garçons qui jouent au foot et les filles qui sont tout autour. Enfin, les garçons donnent déjà de base pas beaucoup de place aux femmes, alors en plus dans les milieux professionnels dits pour hommes, je trouve ça triste en fait que ça empêche certaines personnes de pouvoir pas briller par leur intelligence, mais un peu. Ça m'a déjà pas mal intéressant et puis en plus ça m'a apporté beaucoup plus de réflexion que j'aurais pas forcément eu comme ça par moi-même.
Cette intervention de la part de Femmes et Sciences 53 a donc encore toute son utilité.
Et oui, on l'entend, hein, puisque ça fait réagir. En tout cas, merci Claire pour ce reportage réalisé donc au lycée Douanier-Rousseau à Laval la semaine dernière. Marquée par son histoire familiale, Anaïs Grémont s'est lancée dans la confection de protections hygiéniques bio zéro déchet. Aujourd'hui, elle en fabrique 800 par mois. Elle nous expliquera le parcours de son entreprise Coucou Lily dans quelques minutes, le temps d'écouter This is the Kit avec Moonshine Freeze.
As the change sets in, we are separate. As the game begins, we are separate. Some strings slackening, others giving in. Change sets in. Cycles of three, triangles are tricky. Cycles of three, triangles are tricky. Cycles of three, triangles are tricky. As the change sets in, we are one again. As the game begins, we are one again. This is the natural order of things. Change sets in. Moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Freeze. As the change sets in, we have lost our way. As the game begins, we are found again. As the change sets in, cycles of three, moonshine, 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 free. 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 As the change sets in, we are one again. As the game begins, we are one again. This is the natural order of things. Change sets in. Thank you.
douceur pour ce jeudi, alors plus sous la neige mais avec le verglas, c'était This is the Kit avec Moonshine Freeze sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local et on va parler désormais, comme promis avant la pause musicale, de protection féminine bio, zéro déchet et locale que nous propose Anaïs Grémont avec les créations de son entreprise Coucou Lily. L'aventure a commencé il y a 5 ans dans son atelier de Tran. Marquée par son histoire familiale, Anaïs Grémont se souvient.
Alors, j'ai créé mon entreprise en 2016 via Codémarrage 53, qui est une coopérative d'activité et d'emploi. Et le projet a mûri déjà dans un premier temps parce que moi, j'avais des gros soucis d'allergie. Et quand ma fille est née, j'avais décidé de la mettre en couche lavable et j'ai eu le déclic. Je me suis dit, je fais ça pour ma fille, mais je le fais pas pour moi. Donc, je me suis créé mes premières protections hygiéniques lavables parce qu'à l'époque, on en trouvait très, très peu. Et puis on parlait pas encore de tout ce qui était choc toxique, allergie, enfin voilà, c'était très tabou. Et on parlait encore moins de réduction des déchets. Donc du coup, moi j'ai fait cette démarche de façon personnelle. Et puis quelques mois plus tard, nous avons appris que ma maman était atteinte d'un cancer ovaire-utérus péritoine. Et c'est une femme qui avait porté des tampons toute sa vie. Et en fait, on a appris que c'était les conséquences de ce port de tampon qui avait engendré son cancer. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on propose des alternatives pour arrêter les dégâts. J'ai estimé que c'était le bon moment pour un changement professionnel aussi. Puisque à ce moment-là, je travaillais en logistique industrielle et je commençais à ne plus me retrouver dans cette activité. Et puis j'avais envie de mener un dernier projet avec ma maman, donc on a commencé à prototyper toutes les deux, je me suis lancée, voilà.
Et alors vous avez commencé par quoi justement, parce que donc maintenant je pense qu'il y a une gamme plus étoffée que ça ne l'était au début.
Alors au départ j'ai commencé vraiment l'activité sur les sarouels pour enfants. Ça a été vraiment pour me lancer, pour me faire connaître. Et suite à ça, j'ai sondé pour voir si mes clientes seraient intéressées pour des protections hygiéniques lavables. Et comme elles aimaient beaucoup mon univers de couleurs, j'en ai eu beaucoup qui ont été partantes et le bouche à oreille a très très bien fonctionné. Donc j'ai commencé vraiment par les protections hygiéniques et après la question en est venue à la réduction de mes chutes dans l'atelier parce que je générais beaucoup beaucoup trop de chutes à mon goût. Donc j'ai étoffé ma gamme en faisant des carrés démaquillants, des lingettes lavables et puis progressivement ça s'est étendu sur les éponges, les essuie-tout et tout ce qu'on peut trouver en accessoires zéro déchet textile. Donc maintenant, il y a des charlottes à plat, il y a des sacs à tarte. Enfin, voilà, il y a plein de produits qui se sont greffés à cette gamme suite à des demandes clientes ou des demandes de professionnels. Voilà, on essaye d'étoffer au maximum.
Donc, ce qui vous permet, en tout cas, vous le disiez, d'éviter d'avoir trop de déchets. Ça, c'est important dans votre démarche?
Ouais, énormément. Faut savoir qu'en textile, on génère vraiment... beaucoup, beaucoup de déchets. Pour vous donner une idée, on est sur du 25% à peu près de déchets. Donc le fait de faire déjà des carrés démaquillants, alors certes, ils sont pas tout à fait toujours à la même dimension, mais au moins, on fait ça de moins dans la poubelle. Pour moi, c'était essentiel aussi parce que je suis dans cette démarche de réduction des déchets au quotidien, dans ma vie de tous les jours. Donc, je me suis dit que sur la partie professionnelle, c'était essentiel aussi de continuer dans cette lancée.
Et donc, au niveau des matières premières que vous employez, est-ce qu'il y a un soin qui est aussi apporté, on va dire, à tout ce qui est bio et plutôt respectueux de l'environnement?
Alors, on a justement au départ prototypé les serviettes hygiéniques parce que j'avais la volonté d'utiliser un coton bio français avec teinture végétale. Et il faut savoir que ce coton-là, il est issu Enfin, il était issu parce que maintenant je ne peux plus utiliser que des chutes. J'ai plus assez de matière, mais au départ j'utilisais des chutes d'une fabricante d'écharpes de portage. Il fabrique ça dans l'hiver. Et du coup, j'utilisais toutes ces chutes pour fabriquer mes inserts de mes protections hygiéniques. Aujourd'hui, au vu des volumes, je ne peux plus utiliser que des chutes, même si j'essaye encore de le faire. Mais là, les volumes sont devenus tellement importants que maintenant, je lui prends du tissu au mètre et j'ai plus vraiment le choix, en fait. C'était vraiment une démarche de l'aider à liquider ses chutes, mais aujourd'hui je préfère lui acheter directement de la matière première au boulot et aussi l'aider dans le développement de son activité.
Donc ça s'est bien développé en tout cas en quelques années. Là, c'est votre activité vraiment à plein temps, j'imagine ?
Oui, c'est mon activité à plein temps et j'ai également deux temps partiels avec moi. Qui sont là pour m'aider sur les périodes fortes de l'année.
Qui sont du coup, à quel moment sont les temps forts pour vous ?
Alors les temps forts, ce sont les périodes de Noël, la rentrée scolaire, c'est étonnamment une période où ça marche bien, et puis la partie printemps, beaucoup, avant l'été quoi.
Et ça représente combien de... Alors, je ne sais pas si c'est de protection hygiénique ou on va dire d'objets, on va dire, confectionnés par vos soins, vendus à peu près par mois.
Alors, d'objets, je ne pourrais pas vous donner un chiffre. Par contre, pour les serviettes hygiéniques, je suis à peu près, en moyenne, sur l'année, je suis à 800 serviettes par mois. Donc, vendues sur différentes structures. Je vends, vous pouvez me retrouver dans toutes les biocoop du département, dans les quatre du département. Et sinon, je vends aussi sur des structures indépendantes, des épiceries zéro déchet indépendantes. Et on peut aussi trouver mes produits sur mon site internet www.coucoulili.fr.
Et sachant que tout est bien produit à la main, c'est aussi pour ça que ça prend du temps.
C'est ça, tout est fait à la main, tout est tracé, coupé par nos soins en Mayenne. Je ne fais aucune sous-traitance. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est un choix de travail. Je suis dans une démarche de tout faire de A à Z. Et pour le moment, j'en ai les capacités, donc faut que ça continue comme ça. C'est pour ça que j'ai le souhait aussi de rester sur une dimension humaine. Je veux pas trop me développer. Je veux continuer à pouvoir être derrière ma machine à coudre et sortir mes produits de façon autonome ou avec des renforts sur des temps donnés.
Et alors, est-ce que vous étiez déjà couturière avant de vous lancer dans ce projet-là ?
Alors, j'ai toujours vu ma maman coudre. Ma maman était passionnée de couture. Moi, j'ai appris petite à manipuler une machine à coudre, mais à l'adolescence, je me suis arrêtée parce que j'avais d'autres centres d'intérêt. Et puis aussi parce qu'il y a eu un grand bouleversement dans ma vie. En fait, jusqu'à mon adolescence, je voulais devenir maître voilier, donc je voulais continuer dans la couture, mais pas forcément du textile traditionnel. Je voulais fabriquer des voiles de bateau. Et puis la vie a fait que j'ai eu un grave accident qui m'a fracturé la colonne vertébrale. Et donc à ce moment-là, j'ai complètement décroché des machines à coudre parce que j'étais très très frustrée en fait de pas pouvoir atteindre mes objectifs professionnels que j'avais en tête depuis toute petite. Et puis à la naissance de ma fille, je m'y suis remise. Je pense que comme beaucoup de mamans d'ailleurs, j'ai eu envie de lui refaire des vêtements, ses couches. Et puis progressivement, j'ai remis la main à l'étrier. Aussi parce que j'avais envie de partager une activité avec ma maman. Donc voilà, je me suis remise tranquillement. Et puis le déclic s'est fait et j'ai décidé de lancer mon activité. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer d'être derrière ma machine à coudre.
On sent que bah, forcément, c'est un projet qui est directement lié à votre histoire, donc ça vous tient à cœur, j'imagine.
Oui, je pense que pour moi, cette entreprise, c'est vraiment un parcours de vie. Et je pense que sans ce parcours de vie, je n'en serais certainement pas là aujourd'hui. Et il faut que ça continue et ça continuera parce que je m'en donne les moyens. Même si c'est très fatigant l'entrepreneuriat, même si ça demande un acharnement de tous les jours et une amplitude horaire très conséquente, pour rien au monde, je n'arrêterai.
Et vous n'avez pas forcément eu de conséquences avec la crise actuelle par rapport à vos ventes ou à même à vos approvisionnements, par exemple ?
Alors, les approvisionnements ont été très compliqués lors du premier confinement. Alors, je ne sais pas si j'ai eu le nez fin, mais j'avais anticipé en fait mes approvisionnements comme je le fais en temps normal en début d'année, ce qui m'a permis en fait de tenir sur les 3 mois de confinement. Bon, il était temps que la machine reparte parce que ça commençait à être un peu difficile, mais j'ai la chance de travailler avec des éditeurs français. Donc déjà, toute la fabrication est faite en France. Donc ça facilite les choses en termes d'approvisionnement. C'est sûr que si on achète à l'autre bout du monde, bah forcément c'est compliqué. Mais comme moi, j'achète que du français ou de l'italien, du coup, c'était finalement pas si compliqué que ça. Et puis bon, c'était des réseaux avec lesquels je travaille depuis des années, donc forcément les contacts sont plus faciles. Enfin voilà, on arrive à trouver des solutions. Donc en termes d'approvisionnement, finalement, ça s'est bien fait. J'ai pas eu trop de soucis. Là où ça commence à être un peu plus compliqué, c'est en ce moment. L'activité commence à diminuer et on espère que ça va repartir, mais c'est vrai que l'effet couvre-feu, on se ressent sur mes petites structures, en tout cas. Les gens, sur le peu de temps qu'ils ont à disposition, ils le font pour de l'alimentaire. Donc voilà. Mais je ne m'inquiète pas, ça va redémarrer. Hein, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est un petit peu plus creux que ça ne l'est d'habitude. Ça fait du bien, ça va laisser du temps aussi pour éventuellement développer de nouveaux produits. Enfin, il faut s'accorder ce temps-là aussi des fois. Donc, moi, je suis pas dans la fatalité. Je me dis que si ça se passe comme ça, c'est que ça doit me laisser de la disponibilité pour créer d'autres choses.
Puisque c'est vrai qu'il y a quand même depuis quelques années, peut-être même encore plus quelques mois, toute cette tendance zéro déchet aussi qui arrive. Et donc forcément, à chaque fois, vous avez une forte demande pour vos produits, j'imagine.
Oui. On est fortement aidé par les médias aussi qui relancent sans cesse la machine. Enfin, moi, je sais que mon activité, elle a fortement évolué au moment où les médias parlaient beaucoup de choc toxique avec les tampons. Le souci principal, c'est vraiment notre santé, quoi. C'est plutôt positif parce que les gens ils prennent conscience. Je pense que ils prennent plus conscience que leur santé est en jeu plutôt que la planète se dégrade. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Hein. Le côté humain fait que on est forcément plus affecté par la difficulté humaine que par la difficulté environnementale.
Et donc voilà. On vient vous voir en général effectivement plutôt pour des raisons de santé.
Je trouve, ouais. Après, je n'ai pas, par exemple, les clients qui achètent sur le site, j'ai pas d'échange en direct avec eux, donc je ne sais pas vraiment pourquoi ils se dirigent vers ce type de produit. Mais je sais que quand je suis en boutique, je l'entends beaucoup, quoi. Ils ont des démangeaisons, ils sont brûlés, il faut qu'ils changent, quoi. Il faut qu'ils changent leurs habitudes. Ça, je l'entends de plus en plus. Et c'est la jeune génération qui souvent, et ça me fait toujours très sourire, qui souvent amène leur propre maman vers ça.
Juste une dernière question. Du coup, votre fille, elle doit avoir un petit peu grandi. Est-ce qu'elle aussi, elle aurait bien envie de se mettre à la couture ?
Je ne crois pas. au jour d'aujourd'hui, elle est attirée par la matière, parce que les couleurs sont vives et on sait que les enfants aiment beaucoup ça. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on parle de transmission, non. Je pense qu'elle voit sa maman beaucoup travailler et peut-être que finalement ça la dégoûte de se dire que faut autant travailler pour arriver à ses fins. Mais elle reste petite, elle a 7 ans, donc puis je pense qu'elle a, elle a aussi envie d'avoir sa maman un peu plus avec elle. Mais même si elle aime bien venir dans l'atelier m'observer, ce que je vois que dans la gestuelle, elle est très observatrice. Mais aujourd'hui, non, je pense que juste regarder le situ lui convient et m'aider dans la sélection. Ça, quand elle est dans les catalogues, elle apprécie.
Pour retrouver toutes les créations d'Anaïs Grémond, rendez-vous sur un seul site, www.coucoulili.fr. Cou, évidemment, comme le verbe coudre, un C-O-U-D-S. On revient d'ici quelques minutes après la pause musicale assurée par Sun Little avec The River.
Many a moon comes way at night. Many a moon comes and shine a light. Taking her clothes off, it break my mind. Taking her clothes off, gonna take off mine. You got
c'était Sand Little sur l'autre radio avec The River. Et c'est le retour aujourd'hui de la chronique d'Emma. Nous sommes donc bien jeudi 11 février, consacré ce jeudi à l'environnement et aujourd'hui plus spécifiquement d'ailleurs aux animaux. Alors Emma, on parle souvent de perte de la biodiversité, mais aujourd'hui, à l'inverse, tu nous proposes une chronique sur les espèces qu'on vient de répertorier.
Exactement Marie, puisqu'aujourd'hui on va parler de découvertes dans le milieu animal, parce que si vous pensiez qu'on sait tout des espèces qui nous entourent, eh bien c'est loin d'être le cas. Et en 2019 et 2020, deux nouvelles espèces ont été recensées, et pour ça on va voyager en commençant par le Vietnam. En effet, l'année dernière, un serpent a été découvert par des chercheurs dans une province au nord du Vietnam. Le serpent appartient à la famille des Acalinus, qui contenait déjà 13 espèces. Ces serpents sont endémiques à l'Asie, et plus précisément l'Asie de l'Est. Le nom donné à ce serpent est Acalinus zugerum, en hommage à George et Patricia Zug, deux herpétologues américains. Et s'il n'a été découvert que maintenant, c'est dû au fait que ce serpent a tendance à fuir les êtres humains et les autres animaux, et en plus, il vit sous la terre, ce qui lui a permis de rester caché pendant de nombreuses années. Sa particularité est que ses écailles reflètent des couleurs bleues et vertes en fonction de la lumière.
Et Emma, on a aussi découvert une espèce de singe en Birmanie.
C'est le singe Popa langur qui a été observé. Ce primate appartient à la famille des langurs, qui sont des singes endémiques de l'Asie du Sud-Est, et il est nommé Popa d'après le mont Popa, qui est un site sacré situé sur un ancien volcan. Le primate ne mesure qu'une cinquantaine de centimètres et on ne compte environ que 200 à 250 individus, ce qui fait de cette espèce à peine découverte déjà une espèce en voie de disparition.
Oui, malheureusement. Et on compte aussi un serpent avec un nom inspiré d'Harry Potter.
Et oui, on reste en Asie, mais dans l'Himalaya, où un nouveau crotal a été découvert et son nom est le Trimeceruscus Salazar. Et oui, c'est bien en référence à la franchise de J.K. Rowling que ce serpent doit son nom, puisque Salazar est le fondateur de la maison Serpentard dans la célèbre école de magie de Poudlard. Ce serpent est arboricole et est reconnaissable grâce à couleur verte ainsi qu'une bande orange située sur le bout de sa tête. La faune et la flore de cette région restent peu connues et c'est pourquoi on y découvre encore de nouvelles espèces.
Et puis une autre référence, mais cinématographique cette fois, avec l'araignée phénix.
Et oui, car cette araignée trouvée en Iran doit son nom à Joaquin Phoenix, et notamment grâce à son rôle du Joker. En effet, l'araignée se nomme ainsi en raison de ses couleurs rouges, blanches et noires, rappelant alors les couleurs du personnage. Et seulement deux individus ont été observés. Alors c'est sûr que ça ne semble pas beaucoup, mais cela suffit puisque cette araignée aux couleurs uniques est reconnaissable entre toutes, ce qui aide beaucoup pour son identification. Grâce aux observations des scientifiques, on a pu affirmer que cette espèce est endémique à une région de l'Iran et est la première espèce de son genre et la plus orientale recensée aujourd'hui.
On part un petit peu moins loin maintenant, en Corse, où une nouvelle espèce de félin a été découverte.
Le mythe qui concernait un animal qui serait un mélange entre un chat et un renard qui vivait sur l'île s'est avéré être réel. Ce félin fait environ 90 cm de long et ressemble à un chat comme on peut en avoir chez nous. La différence étant que son pelage est roux avec des extrémités aux pattes qui sont noires, rappelant alors les renards. Ce chat est extrêmement discret et vit la nuit, principalement observé en Haute-Corse. Il vit dans un paysage rocheux et très escarpé, loin des humains et près de l'eau, afin d'échapper à leur principal prédateur, l'aigle royal. Il a été identifié par des scientifiques et une douzaine d'individus ont été marqués. Les chercheurs veulent donc que cet animal soit reconnu et protégé, vu qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'ils n'ont été observés que peu. Voilà pour ces découvertes du monde animal de ces deux dernières années. Je suis persuadée qu'il nous en reste beaucoup à découvrir.
Oui, j'en suis persuadée aussi. Merci beaucoup Emma pour cette chronique. On te retrouve du coup pour une nouvelle chronique sur un sujet encore surprise, évidemment, dans 15 jours, dans 2 semaines. Merci beaucoup.
Merci.
Et on retiendra évidemment, alors je ne sais plus, hein, l'araignée qui a le nom de Joaquin Phoenix. En tout cas, moi ça m'a marqué. On passe cette fois-ci au feuilleton qui nous suit hein, depuis le début de la semaine. C'est le principe du feuilleton. Et aujourd'hui, on s'intéresse, Claire, au devoir de mémoire.
Oui, on l'a entendu hier, le film Les Lavallois pendant la Seconde Guerre mondiale rassemble des témoignages très intéressants et émouvants, mais aussi des reconstitutions avec des jeunes. Pour Stéphane Piau, ce lien est très important.
Ces liens intergénérationnels sont très importants et très émouvants. À chaque fois qu'on va dans les écoles, c'est des rencontres fabuleuses. Les jeunes générations, c'est « Oh là là, comment ils étaient habillés ? Ah mais ce bâtiment-là, il n'existe plus, c'est quoi ça ?» et tout ça. Donc ça interpelle et en même temps, ça fait avancer le truc, quoi. C'est important de faire de la transmission de la mémoire. À chaque fois, ces rencontres intergénérationnelles avec les témoins lavallois que l'on fait venir dans les écoles ou qui viennent ici au studio vidéo faire part de leurs témoignages, c'est toujours des rencontres fabuleuses et chargées d'émotions avec les jeunes générations. Avec leurs enseignants, les enfants préparent à l'avance leurs questions et tout. Donc il y a une sorte de question-réponse, un échange vraiment très très émouvant à chaque fois, des rencontres fabuleuses. Souvent on me dit, mais tu vas saouler les jeunes avec l'histoire, la transmission de la mémoire. Ils s'en foutent royalement, et non, pas du tout. On se rend compte qu'ils sont très 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 demandeurs et très respectueux des anciens et de l'histoire, quoi. On va démarrer l'officialisation de la transmission de la mémoire et la découverte des technologies nouvelles. J'y tiens parce qu'on fait à la fois de l'histoire et du patrimoine sur la ville de Laval, mais en même temps la découverte des technologies nouvelles à travers l'univers du montage, du tournage et tout ça, parce qu'ils sont très demandeurs, ils ont ça à leur programme. Donc là, on va commencer les premières animations et projections débats et rencontres avec les témoins et les historiens de la ville de Laval dès février ou mars dans les écoles primaires, privées et publiques de Laval. Aussi, la sauvegarde de l'enfance, qui travaille avec les réfugiés et tout ça, qui sont venus ici découvrir, et je pense qu'il y a des choses à faire. Et on a aussi une demande de l'inspection académique et de l'enseignement catholique pour le développer dans les collèges et les lycées. Et on travaille aussi beaucoup avec les maisons familiales rurales, notamment à Saint-Berthevin depuis des années. Donc au mois de juin, on faisait nos grandes rencontres avec toute leur classe de 3e. C'était des rencontres vraiment énormes à chaque fois. Et là, ils nous ont demandé, avec la municipalité, c'est sur le point d'aboutir, à développer davantage avec l'ensemble de leur classe. Dès février-mars, on va se cantonner à ça. Et j'ai une grosse demande aussi des EHPAD qui souhaiteraient développer ce genre de transmission de la mémoire. Il y a une grosse attente. Je ne cacherai pas que quand ils voient des familles qui sont décédées depuis, des amis, forcément c'est émouvant pour eux. Et quand on a fait le film Seconde Guerre, forcément on leur appelle, on leur ravive des souvenirs assez qui leur prend aux tripes, quoi. Vous savez autant bien que moi que maintenant tous les poilus lavallois et les témoins lavallois de la Première Guerre sont tous décédés. Et si on n'immortalise pas ces souvenirs, ce sont à tout jamais des mémoires qui sont perdues. Donc il y a tout ça, c'est forcément un gros travail, mais c'est archi passionnant et on s'en lâche jamais.
Ce travail de mémoire n'était pas forcément la vocation de Stéphane, et pourtant il y travaille au studio vidéo depuis 35 ans. On découvre demain pourquoi.
C'est l'heure de la rubrique Initiative. Claire, on continue dans notre semaine spéciale Saint-Valentin avec une idée éclairée.
Et oui, c'est grâce aux panneaux lumineux de la ville de Goron. Vous voulez déclarer votre flamme, faire votre demande en mariage ou juste diffuser un texte d'amour? Envoyez votre message jusqu'à demain, vendredi 14h, pour être affiché à l'angle de la rue Magenta et de la rue de la Mairie, aux yeux de tous. Il sera diffusé en boucle ce dimanche 14. Votre message doit avoir un maximum de 60 caractères, espace compris, et il est à envoyer au 06 24 62 50 30 ou par mail communication@goron.fr.
Et pour soutenir nos commerciants, rien de mieux qu'une box spéciale Saint-Valentin.
Et oui, la box contient un menu pour deux réalisé par la gourmandine à Bazoges-Montpinçon, une bouteille de vin en accord avec le repas de la petite cave de Saint-Georges-Butavant et un bouquet de fleurs du magasin Fleurs d'eau à Mayenne. La box est sur réservation et à retirer à la gourmandine samedi jusqu'à 15h ou dimanche jusqu'à 13h. Pour réserver, appelez le 02 43 03 18 50.
Et pas de sortie spéciale cinéma spéciale Saint-Valentin, mais une séance privée à gagner.
C'est ce que propose le cinéma Vox à Mayenne sur leur page Facebook, sous le post tagué votre mari, conjointe, ami, etc. pour tenter de gagner une séance de cinéma privée du film de votre choix. Et quand les conditions sanitaires bien sûr le permettront, foncez sur leur page Facebook Cinéma Le Vox Mayenne, tirage au sort ce dimanche.
Merci beaucoup Claire, c'est la fin de la JT du local, à demain.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.